In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
On a parlé d'IA, on a parlé de stockage cloud, et là, on change encore. J'aime bien ces émissions où vraiment ça va dans tous les sens. Et on va parler de jeux vidéo. On va parler de jeux vidéo, mais dans un navigateur, ce qui est soit pas ouf, parce que moi tu me dis ça, je pense à Miniclip, ou éventuellement à des trucs un peu plus récents. Non, là, c'est pas ce à quoi vous devez vous attendre, parce qu'on va parler de jeux dans le navigateur. Mais dans le futur. Et pour ça, on reçoit Alex. Comment ça va, Alex ?
Bonjour. Bah écoute, déjà, merci pour l'invitation. Moi, ça va très bien. Je suis absolument ravi d'être ici. C'est complètement dingue. Et en effet, ouais, on va parler de jeux vidéo, entre guillemets, du futur. Et avec un jeu vidéo bien actuel, pour le coup. Tout à fait.
On va rentrer dans le vif du sujet. Juste avant, simple curiosité, c'est ton premier live ?
Non, c'est mon premier live. C'est une première. C'est une grande première.
Tu sais que t'avais du setup chez toi d'audio, mais.
Oui, parce que je tourne un petit podcast, mais c'est un podcast de 5 minutes, très court, qui s'appelle Capsule Code. Et okay. L'idée, c'est de faire sa veille tech et actualité code en 5 minutes le lundi. Ça sort tous les lundis à 9h30 sur Spotify.
Alors, et pour comprendre, toi, du coup, on va parler de jeux vidéo. Et pourtant, à la base, est-ce que tu es un développeur jeux vidéo ?
Pas du tout. À la base, je suis un développeur web. En gros, moi, j'ai un parcours un petit peu particulier dans la tech parce que j'ai commencé avec du C en lycée où j'étais en classe de STI 2D. On a monté des systèmes embarqués sur des cartes Arduino. Et après, j'ai tenté l'école 42.
Ouais.
Parcours un peu particulier parce que j'ai réussi l'école 42, mais j'ai pas été sélectionné.
Mais si, comme un quoi ?
Comment ça ?
C'est-à-dire qu'il y a une sélection à la fin avec des critères de sélection mystérieux. L'idée, c'est que j'ai fait du coup ce qu'on appelle la piscine, où en gros, t'es noyé d'exercice tous les jours. Et le but, c'est de voir qui sort la tête de l'eau. Et en fait, à la fin de cette piscine, tu as une sélection qui dit oui, tu passes, non, tu passes pas. Et j'ai beau avoir réussi mes days, et j'ai beau avoir réussi, puisque c'est les days, les formats d'exercice, et les examens finaux.
T'es prêt à la fin ?
Pas été pris là-bas.
Alors, ça se trouve que c'était sur une année où il y avait trop de réussite ou des trucs comme ça.
Potentiellement, je sais pas, j'ai une théorie, mais j'en parlerai en off. Mais on en parlera en off.
On a des enceintes 42, donc on va débrief.
Bien sûr. Sur le coup, aujourd'hui ça va, j'ai fait ma paix avec ça, mais sur le coup ça m'a mis une grosse déprime. J'étais en mode, en fait, le code c'est pas fait pour moi. En plus, c'est un mois où t'es crevé. Vraiment, ça use toute ton énergie parce que tu vis là-bas, tu dors là-bas. Aujourd'hui ça se fait plus, mais à l'époque c'était ça, parce que je l'ai passé en 2018 du coup. Et t'es crevé. Et du coup, à la fin, t'as pas sacrifié parce que j'ai appris quand même beaucoup de trucs. Un an de ta vie et t'es pas sélectionné. Donc t'es en mode, ah!
Ouais, c'est dur.
Quel est mon avenir ?
Mais du coup, t'as fait quoi après pour apprendre à coder ?
Eh ben, du coup, je suis parti 2 années de fac. Je me suis dit, j'aime bien enseigner, j'aime bien l'anglais. Eh ben, je vais devenir prof d'anglais.
Non. Ok.
Ah oui, d'accord. Rien
ouais,
à
ouais, ouais, le shift complet. Hein. Et non, il fallait pas faire ça.
Après, c'est utile l'anglais dans le.
Absolument.
Dans ta carrière.
Absolument, parce que enfin, j'ai toujours eu un bon niveau d'anglais, ce qui est d'ailleurs très pratique pour le code. Je suis tombé sur une pub à un moment sur un bus. Je devais prendre mon bus pour entrer et je tombe sur une pub sur une école qui s'appelle My Digital School, qui est une école du web et du digital. Je vais là-bas, on me fait intégrer en 2e année et franchement, super. Tout se passe extrêmement bien et là, du coup, je rencontre un prof, Monsieur Dufay, si tu m'entends, douce pensée à toi, qui est absolument passionné par son travail et forcément, il partage sa passion. Ça me recontamine de passion, je me remets à fond dans le code et j'y prends beaucoup de plaisir.
Amoureux.
Trop cool.
Ouais.
De la programmation.
Absolument.
Avant juste qu'on rentre dans le vif du sujet, petit rappel, on essaye d'éviter un peu les anglicismes. Je dis ça parce qu'on va parler de techno, web, on va parler de dev, etc.
Okay.
C'est un monde plein d'anglicismes. Donc, petite note mentale à tout le monde. On essaye de trouver les équivalences et tout, mais je sais que c'est pas toujours assez simple. Et sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on reçoit Alex Moulineuf, un développeur web qui a décidé de recoder entièrement Mario Kart pour y jouer directement depuis un navigateur web. Vous allez voir les images, c'est bluffant de réalisme. Il va nous expliquer Déjà, pourquoi il s'est engagé dans ce projet? Comment il s'y prend? Quels sont les challenges d'avoir un jeu comme ça dans un navigateur? Et est-ce qu'il prend des risques face à Nintendo? Moi, c'est la question que je me suis tout de suite posée. Et enfin, est-ce que l'avenir du jeu vidéo se loge dans les navigateurs web? Est-ce qu'un jour, on pourrait jouer à des AAA avec des nouvelles technologies comme web, GPU, etc.? On va en discuter avec toi, Alex. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Comme les images que vous êtes peut-être bientôt en train de voir, ce nouveau Mario Kart, donc se joue dans à peu près n'importe quel navigateur. Est-ce que déjà, on peut commencer par l'origin story? À quel moment tu te dis, je me lance là-dedans et je code cette merveille-là?
Au moment où précisément je suis dans la merde. Je m'explique. En arrivant en quatrième année d'études, je signe un contrat d'alternance dans une boîte qui distribue un logiciel SaaS logiciel applicatif pour des galeries d'art. Je vais essayer d'éviter les anglicismes, je vais faire des efforts. Contexte très bizarre d'entreprise, et mon patron décide d'arrêter de me payer au bout d'un an de contrat, sur deux ans. En bonus, de faire le mort. Donc c'est-à-dire que tu appelles, tu envoies des messages, pas de nouvelles, rien, nada. Et donc c'est un peu la merde, on va pas se mentir, parce que quand on est adulte et qu'on se déplace, quand on quitte le domicile familial et qu'on arrive à prendre la vie active et se loger avec quelqu'un, c'est compliqué de plus avoir de revenus, surtout dans le contexte qu'on connaît. Et je me dis, ok, tu sais coder, tu sais faire des trucs. Puisque j'ai monté d'autres petits projets en 3D avant, parce que c'est un sujet qui me passionne absolument, et je dirais que c'est le sujet qui me passionne le plus en termes de développement. Tu sais coder, vas-y, fais un projet, éclate-toi et partage-le sur les réseaux. Et c'est de là, du coup, d'où vient le projet Mario Kart.
Avec un peu de chance, ça va faire tellement de bruit que tu vas trouver ton prochain employeur, par exemple, ou...
Ça m'a ouvert des portes, un truc de dingo, je pense qu'on en parlera après, mais un truc de dingo, ça a changé ma vie pour le mieux, parce que du coup j'ai arrêté mes études et je me suis mis à plein temps là-dedans et dans plein d'autres trucs dont on parlera sûrement après, mais ça a changé ma vie, un truc de dingo.
Ok, donc tu te dis, pour un projet ambitieux, comment tu penses à ça ?
Je suis un gros passionné de jeux de voiture de base, et notamment un gros joueur compétitif. Et j'ai joué toute ma vie à Mario Kart, j'ai joué toute ma vie à Smash Bros, à ces jeux-là, et j'ai baigné finalement dans l'univers Nintendo. Et je me suis dit, ok, j'aimerais bien faire un jeu de voiture. Et du coup, je tente un petit concept, un petit prototype, où c'est juste voir si je peux faire rouler une sphère selon l'orientation d'une carte. Et je me dis, si j'arrive à faire ça, je suis peut-être pas obligé de faire une physique avec quatre roues, mais... Je vais peut-être faire une physique un peu arcade où ma sphère devient ma voiture, et c'est comme ça que je vais pouvoir faire un Mario Kart. Et à partir de là, je me suis dit, quand j'arrive à créer, c'est exactement ça. Quand j'arrive à créer ce modèle-là, j'arrive à créer un système de d'amortissage qui crée cet effet de drift. Et là, je me dis, oh là là, c'est là. Je vais faire un Mario Kart en JavaScript.
C'est trop marrant. Donc en fait, tu étais en train de bidouiller dans ton bac à sable, et t'as vu ça, tu t'es dit, juste c'est un kart en fait.
Exactement, exactement. Et ça a reçu un amour de fou sur les réseaux sociaux, justement à travers Twitter et à travers LinkedIn, où du coup je publiais tous les jours les avancées du projet, les étapes, jour après jour, feature par feature.
Question toute bête, mais tu te lances dans ce projet, tu publies tout sur les réseaux sociaux. Je pense que beaucoup de gens connaissent la réputation de Nintendo en ce qui concerne la propriété intellectuelle, etc. Est-ce que tu étais un peu stressé quand même ?
Je l'étais. Il y a eu deux parties là-dessus. Au début, je l'étais. Et puis ensuite, j'étais en mode, au final, tu fais juste de la rétro-ingénierie quelque part. Je n'ai pas volé le code de Nintendo et dit, ça, c'est mon code. C'est mon code et je montre le code de Nintendo finalement. Mais voilà, je ne me suis pas approprié le code de Nintendo. J'ai créé mon propre code Nintendo, entre guillemets, de Mario Kart en JavaScript. Et y a une jurisprudence, notamment autour des émulateurs, parce que c'est autour de ça que ça se retrouve, qui n'est pas illégal de rétro-ingénierer une console. Il est illégal par contre d'en faire un business commercial, ce qui n'a jamais été le but du projet Mario Kart. C'est là par exemple où Yuzu, que vous devez connaître forcément, l'émulateur Switch, s'est un peu cassé la gueule parce qu'ils en ont fait une utilisation commerciale. Mais par contre, des émulateurs comme Dolphin ou SNES 9X ne l'ont jamais fait, et c'est pour ça qu'eux ils sont tranquilles. Et de l'autre côté, il y a eu, j'ai eu une rencontre, forcément, très bon article. J'ai eu une rencontre avec plusieurs entrepreneurs, mais notamment un qui m'a beaucoup marqué, où il m'a dit, à la fin d'un call, il m'a dit, mais je te souhaite que ton projet il se fasse descendre par Nintendo.
What?
Parce que ce serait un coup de projecteur de malade.
Exactement, exactement. Et là, du coup, j'étais en mode, ah ouais, en fait, j'en ai rien à faire.
Ouais, alors je sais pas, les fameux ninja Nintendo, je sais pas si même pour de la mauvaise pub, j'ai envie de me les mettre sur le dos. Mais en vrai, je comprends. Et dans les faits, t'as même pas eu besoin de Nintendo pour que
absolument
un carton partout quand on a vu le résultat. Avant de voir vraiment des détails du gameplay et peut-être une course en direct qu'on est en train d'organiser en coulisses, comment on s'y prend quand on veut coder un jeu comme Mario Kart de zéro? Parce que c'est pas comme si les jeux de voiture, c'était un truc super récent qui venait de sortir, etc. Mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose avec Mario Kart qui est que il y a un feeling Mario Kart qui est super unique et que tu retrouves dans aucun autre jeu. Comment toi, tu t'approches ça, d'abord techniquement c'est quoi les grandes étapes de ton projet entre la boule qu'on a vue glisser et le résultat de dingue que vous allez voir?
Moi, mon approche en général, quand j'approche un projet 3D, c'est je commence d'abord, en général, on fait pas ça. On part d'abord du prototype et ensuite, on améliore le visuel. Moi, j'aime bien partir d'une base visuelle en mode... Ok, ma scène 3D doit ressembler à ça. Et dès que j'arrive au résultat que je veux, je suis en mode, oh, ok, c'est joli. Là, je peux développer, tu vois. Et du coup, j'ai d'abord commencé à monter la scène 3D et mettre mon petit Mario, mettre ma petite carte et une carte de Paris. Et voilà, on remonte sur le thread du coup. On remonte sur le thread. Et du coup, ensuite, ça a été l'approche du contrôleur, qui est forcément le truc où il y a le plus de travail, finalement, c'est la logique qui va régir la petite voiture. D'abord, il faut une voiture où il faut que tu sois capable de tenir la direction avant de cette voiture, que tu vas pouvoir rotationner et avancer. Il faut la faire rouler. Donc ça, c'est une première étape. Créer la physique pour ça. Ensuite, il va falloir choisir comment tu contrôles cette voiture. Est-ce que tu vas le faire à la manette? Est-ce que tu vas le faire à la souris? Est-ce que tu vas le faire au clavier? Est-ce que tu vas le faire sur téléphone avec un joystick virtuel? Spoiler, j'ai fait les quatre. Et à partir de là, du coup, ensuite, tu vas pouvoir incrémenter, rajouter des mécaniques supplémentaires comme le drift, par exemple, que vous allez voir, je pense, après. Et ensuite, on rajoute les objets, finalement, tout ce qui constitue un Mario Kart. Et enfin, intervient le post-processing pour créer ce petit feeling Nintendo-esque à Mario Kart.
Et alors, donc là, parce que ça, c'est ton résultat, ça a l'air simple quand tu lis comme ça, mais quand on zoome un petit peu, très concrètement, là, par exemple, tu parlais de physique, etc. Moi, je connais le navigateur, donc je sais développer une interface, genre un Google, quoi. Mm-hmm. C'est comment tu obtiens cette notion de 3D et de physique? Concrètement, ça ressemble à quoi de ton côté?
Alors, il y a une API JavaScript qui s'appelle WebGL, mais si on essaie de l'approcher tel quel, je peux vous assurer que c'est un bordel syntaxique et qui est absolument horrible à lire et qui est illisible et codé encore plus. Et du coup, maintenant, il y a quasiment plus d'approche WebGL simple. Il y a un freelanceur qui est assez connu qui s'appelle Aristide Benoît. Lui, maintenant, il fait tous ses trucs en WebGL, mais c'est un grand malade. Et immense respect pour lui, bien sûr, c'est un grand homme. Il a été élu freelanceur de l'année. Je suis obligé de faire un coup de pub pour lui. Et bref. Et du coup, il y a une personne qui s'appelle Mr. Doob qui a inventé une technologie qui s'appelle Tri.js, qui est ma technologie préférée de tous les temps, qui en fait est utilisée sur maintenant quasiment tous les sites web qui utilisent de la 3D, qui nous permet en gros d'utiliser une API JavaScript qui nous permet de créer de la 3D en temps réel dans un site web. Et du coup, par exemple, toi qui as codé par exemple, des sites web tout à fait standards, tu vas avoir tes éléments, div, ton arbre, ton DOM, par exemple, le DOM tree. Là, ça ne se passe pas exactement comme ça. Ça se passe dans un canvas, du coup. Tout se passe dans un canvas et on va pouvoir modifier le comportement de ce canvas avec tri.js, afficher des objets 3D, leur donner un comportement, leur donner une physique avec, par exemple, React Rapier, qui est la physique qui est utilisée, qui est le moteur physique qui est utilisé dans le cadre de Mario Kart 3JS.
Quand tu dis un gros moteur physique, pour bien comprendre, c'est ce qui va décrire comment les objets se comportent quand il y a quand ils ont des chocs entre eux, par exemple, ou des choses comme ça.
Tout à fait, exactement. En fait, ce qu'on ne le sait pas dans un jeu vidéo, c'est que le jeu est rendu deux fois. C'est pour ça qu'on utilise des hitbox notamment. Il y a un monde visuel où ce sont les objets 3D que tu vois, c'est celui que l'utilisateur voit, et il y a un monde physique. Et ce monde physique est beaucoup plus simple et beaucoup plus abstrait du monde visuel, parce que ce monde physique, en fait, il fait toutes les simulations de calculation qui va permettre de définir le comportement d'un objet visuel dans ta scène 3D. Donc, en très bref, par exemple, on n'a pas de gobelet en plastique, j'aurais adoré montrer un gobelet en plastique. L'idée, par exemple, c'est que si on veut simuler une animation de gobelet en plastique qui tombe, on va le faire tomber dans le monde physique et on va dire à l'objet 3D visuel de copier exactement la trajectoire que va prendre l'objet physique.
Et c'est... En gros, tu appliques les lois de Newton, etc., sur un rectangle.
Exactement.
Et à la fin, tu colles ton mèche de gobelet sur ton rectangle physique, en gros.
Exactement. C'est exactement ça.
Mais du coup, les moteurs physiques comme ça, c'est les mêmes pour tous les jeux ou chaque jeu a un moteur physique différent ?
Il y a plein de moteurs physiques. On utilise tous en général une base physique. Heureusement, je me suis pas pris la tête à faire les calculations moi-même parce que je peux vous assurer que j'aurais la tête comme ça. Il y a Avoc qui est un moteur physique très populaire. Babylon, je crois. Il y a Rapier et en JavaScript, en tout cas avec 3JS, on en a deux qui sont ultra connus, qui sont Canon ES et Rapier. Et Rapier, d'ailleurs, c'est un moteur physique qui est écrit en Rust. Et du coup, le super avantage de Rapier, c'est que comme c'est du Rust et c'est pas du JavaScript, les threads sont séparés. Et donc, en termes d'optimisation et de gain de performance, la différence entre Canon.js qui est fait avec JavaScript, par exemple, est énorme.
Je pense que t'as perdu quelques personnes en route. Mais, en conclusion, il y a des super moteurs qui permettent à des développeurs comme toi, qui ne sont pas nécessairement des développeurs de jeux vidéo à l'origine, de faire des scènes 3D complexes de ce genre, c'est ça ?
Absolument.
Et alors, t'as aussi parlé d'un autre truc, c'est le feeling Nintendo.
Ouais.
J'ai envie de te dire, c'est quoi en fait le feeling Nintendo ? Parce que je ne saurais pas le dire comme ça.
La physique du jeu qui est particulière, c'est ça ?
C'est un tout. Il y a le post-processing, il y a les couleurs, la température de couleurs. Donc, c'est-à-dire que c'est en général c'est des images chaudes, Nintendo. C'est beaucoup de couleurs, c'est très coloré partout. Du coup, j'ai dû forcément analyser beaucoup Mario Kart.
J'ai une question en avant parce que. Pardon, excusez-moi.
Ça mange beaucoup. Ah,
mais en fait, tout le visuel, toutes les textures, tu les as pas reprises, tu les as refaites from scratch.
Non. Les modèles et les textures sont faits à partir de modèles de Sketchfab. Les utilisateurs sont crédités d'ailleurs dans le projet Mario Kart 3JS sur GitHub.
Ok.
Non, je me suis pas embêté à
faire de la modélisation de chaque petit objet.
Exactement.
Il y a des banques qui te permettent de.
Tout à fait. Voilà. Ça va être fait parce que la finalité, c'est pas forcément Mario Kart, c'est de développer mon propre projet, peut-être qu'on viendra dessus plus tard, qui s'appelle Pup Cup, basé sur mon petit carlin, où j'ai un carlin qui est fan de voitures. Et l'idée, c'est que je voudrais faire un jeu avec un carlin qui roule et qui fait la course avec d'autres petits chiens. Voilà l'idée du projet final.
C'est de faire un spin-off. Mais oui, du coup, en fait, il y a des gens qui ont déjà modélisé tous les assets de Nintendo.
Exactement.
Dans Sketchfab. Ouais,
ils ont juste récupéré, pour le coup, les assets de Nintendo. Ils en ont refait, eux, et publié sur Sketchfab en libre access.
D'accord.
Cool. Ah oui. Trop cool.
C'est pas le truc de Nintendo qui sont pris et moi j'ai juste collé. Mais du coup, voilà.
Juste pour comprendre, qu'on parlait du feeling Nintendo, est-ce que toi, après avoir observé, disséqué comme ça pendant tant de temps ce jeu, est-ce qu'il y a des trucs que t'as notés où tu t'es dit, tiens, ça, ce truc, la manière dont ça fonctionne, c'est quand même hyper particulier, faut que j'arrive à le reproduire, tu vois.
Plein, c'est super intéressant. Quand tu analyses comment sont faits des jeux Nintendo, du coup, de fond en comble, tu vois les personnages animés sur les côtés, et c'est con, mais si c'est absent, tu le vois, et il manque quelque chose. Les couleurs, c'est un truc de fou. Les systèmes de particules, donc les particules, c'est plein de petits effets minuscules, entre guillemets, mais qui régissent un tout dans une scène 3D, qui créent cet émerveillement pour les yeux dont est capable Nintendo. Il y a ça, il y a les couleurs, vraiment, j'insiste là-dessus. Le post-processing également, qui va nous permettre de rajouter des effets additionnels comme des vrais effets de lumière, etc. C'est un vrai espèce de Photoshop permanent sur une scène 3D.
Typiquement, il y a des flares parfois dans les...
Absolument.
Ça me revient comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un souvenir d'être en train de conduire ma course Mario Kart et d'avoir des petits lens flares comme quand on est en train de filmer le soleil et qu'il y a des petits ronds qui apparaissent.
Absolument.
C'est le genre de détails qui font vivre le jeu, quoi.
Tout à fait, tout à fait. C'est ça, c'est des particules, encore une fois, les couleurs. Tu vois, quand j'ai voulu refaire le dérapage en Mario Kart, j'ai voulu aussi reproduire les systèmes de particules qui sont faits dans Nintendo. Et je te rends compte que c'est pas, non pas un, non pas deux, non pas trois, mais c'est cinq systèmes de particules simultanées juste pour le dérapage et qui tournent en simultané. Tu as une lumière qui explose quand ton drift il change de couleur. Tu as des petites particules au début de ton drift. Ensuite, tu as des particules, mais tu as un modifieur de gravité qui s'applique dessus et un peu de lens flare et tout. Enfin, c'est un boulot de zinzin. C'est un boulot zinzin.
Dingue.
Trop cool. Hein.
Ouais. C'est, en fait, justement, c'est parce que t'es passé par tout ce process de recréer from scratch qu'on est là à réaliser le travail qu'il y a derrière eux. Donc, si jamais il y a quelque chose, c'est plutôt positif pour eux parce de, qu'on se rende compte très concrètement du talent immense qu'il y a derrière la confection de leur jeu. Juste pour revenir au jeu en lui-même, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut tester facilement pour les gens qui sont intéressés par ton truc? Est-ce qu'il faut une configuration genre violente comme un jeu AAA? Est-ce qu'il faut un PC gamer, tu vois?
Alors, c'est tout l'avantage, justement. C'est que, alors, il faut une configuration qui est quand même pas mauvaise non plus, parce que, par exemple, sur mon Mac M2, ça galère un petit peu. Mais c'est tout l'avantage, c'est que c'est un navigateur web. Et du coup, n'importe qui peut y jouer de absolument n'importe où. On peut ouvrir Mario
sur
Kart...
sur n'importe quel OS.
Ouais, voilà, on peut ouvrir Mario Kart sur son mobile, on peut ouvrir Mario Kart sur son Linux, on peut ouvrir Mario Kart sur son Mac, on peut ouvrir Mario Kart sur son Windows... Il n'y a aucune limite. Je suis même sûr qu'on peut ouvrir le Mario Kart sur un navigateur de PS5, par exemple.
ce qui serait assez marrant.
Ouais. Je suis sûr qu'on peut faire ça.
Pas très optimisé, mais ouais, c'est cool.
Je suis sûr qu'on peut faire ça. Je ne sais plus ce que j'allais dire.
Mais en gros, il n'y a pas nécessairement besoin des performances de malade pour fonctionner le truc. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que là, ou dans des jeux vidéo gourmands, justement, ils peuvent... se permet de se dire ça va être sur des nécessairement tourné sur des grosses machines. Est-ce que toi il y a des hacks que tu dois trouver au moment où tu codes ton jeu pour faire en sorte que ça puisse tourner sur un téléphone ou sur n'importe quel appareil, quoi?
Des tas. L'optimisation, c'est le plus gros et le plus dur sujet de la création d'un jeu en 3D, notamment avec la création de shader. Je sais pas si vous avez déjà vu ce que c'est qu'un code de shader.
Alors, faire les ombres, les projections des ombres, c'est ça?
Alors, entre autres, c'est un des trucs. C'est un shader, c'est un code en C, qu'on appelle GLSL, du coup, qui s'appelle OpenGL Shading Language. Je vais perdre un peu tout le monde et je suis un peu désolé là-dessus. C'est un code qui est imbitable. C'est des calculs mathématiques qui vont régir le comportement de les millions de pixels qui s'affichent à votre écran. Et du coup, il faut dire... avec un shader, tu vas donner à chaque pixel et tu vas lui dire quoi faire. Donc, c'est un truc qui est extrêmement compliqué à développer, qui prend beaucoup de temps. Et par exemple...
Typiquement, c'est ça qui permet d'utiliser la puissance graphique. Donc, le fait qu'une carte graphique est très optimisée pour faire des calculs matriciels gigantesques.
Absolument.
C'est comme ça qu'avec peu d'énergie, un peu de calcul, tu arrives à générer genre de l'eau, par exemple, ou de la fumée, j'imagine. C'est
absolument, absolument. La génération de l'eau, c'est tout un sujet parce qu'il y a plein de techniques pour générer de l'eau. On peut le faire avec une normal map, on peut le faire avec un shader, on peut le faire avec plein de trucs. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais dans les jeux vidéo, il y a très peu de vraies réflexions. Il y a très peu de vrais miroirs. Et la réalité, en fait, c'est parce que le coût de rendu d'un vrai miroir est absolument énorme. Et c'est pour ça que ça se fait jamais, par exemple. Si dans Spider-Man, très bon exemple, mais dans le dernier Spider-Man, le dernier Spider-Man 2, qui est sorti sur PS5, on nous montre des ray tracing, des réflexions et tout. Mais la réalité, c'est que les réflexions ne sont pas réelles. C'est un shader qui essaie de reproduire la scène. C'est des sujets qui sont super intéressants. Mais du coup, pour optimiser Mario Kart le plus possible et permettre que ça tourne le mieux possible partout, il faut que je réécrive plein de trucs en shader, il faut que je réécrive les textures en shader, il faut que je réécrive les ombres en shader. Ça va demander pas mal de boulot. J'ai pas tout à fait le temps d'y accorder maintenant. Mais c'est un truc qui sera fait, ouais, parce que, en effet, le but, c'est que ça tourne sur un maximum d'appareils avec le minimum de performance possible.
Donc, déjà, ça tourne pas mal du tout. Mais en fait, il y a encore beaucoup à faire.
Ouais.
Comme optimisation.
Ouais.
Pour que ce soit vraiment nickel.
Absolument.
Parce que, juste là, pour comprendre, du coup, quand on dit que t'as recodé Mario Kart, c'est évidemment, vous voyez le screen de démarrage pour l'instant, etc. Qu'est-ce que tu as fait exactement et qu'est-ce qui reste à faire et que tu comptes faire, tu vois, pour nous donner un petit, un, un ordre d'idée de jusqu'où tu aimerais aller.
Alors, la première étape, ça a été de créer le player controller, du coup. Donc, le kart, simplement, avec la caméra à la troisième personne, les animations de la caméra, les animations des roues, le système d'avancer, de reculer, gauche, droite, drifter gauche, drifter droite, les systèmes de particules, le shader des flammes, des turbos quand on chope un mini turbo ou quand on appuie sur le champignon, parce qu'il y a des objets, les objets justement. Donc, choper un cadeau, obtenir un objet, l'utiliser, l'afficher dans la scène 3D, rajouter un objet en temps réel dans la scène 3D, qui est un sujet qui est super compliqué d'ailleurs. Le multijoueur, donc le fait d'interconnecter deux clients distants pour qu'ils puissent jouer sur la même map et qu'ils puissent se faire la course entre eux. Là, c'est ce sur quoi je suis en train de bosser dessus maintenant, mais c'est tout ce qui est affichage UI, donc user interface, l'interface utilisateur pour faire le décompte, le départ, pareil, un sujet dont je m'étais jamais posé la question toute ma vie, mais qui était super intéressant quand j'ai dû le faire moi-même. C'est-à-dire qu'on fait une course, ok, on a une piste qui est pas une ligne droite, la piste. C'est pas une ligne droite, c'est des courbes, c'est un tracé circulaire, voilà. Comment on fait pour définir qui est devant l'autre sur un tracé circulaire? Vous êtes déjà posé cette question?
Bonne question. Là, intuitivement, j'imagine que c'est comme dans Trackmania ou des trucs comme ça, il doit y avoir des histoires de checkpoints ou des choses comme ça.
Tout à fait. Mais comment tu fais pour t'assurer que les checkpoints soient pris? Mais ça se trouve, il a pris un raccourci entre les checkpoints où il a cut across the map, tu vois. J'avais dit pas d'anglicisme, désolé. Il a coupé à travers la map, à travers la piste plutôt. Et du coup, en fait, pour faire ça, par exemple, on va imaginer, il va y avoir une multitude de petits points sur l'espace qui définit le tracé. Et on va vérifier en temps réel, tout le temps, la distance et où il en est par rapport au point. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se rapproche d'un point, c'est plus un. Et pareil pour l'autre. Et du coup, celui qui a le plus de points, c'est celui qui est P1 ou P2. Et voilà comment on fait. Voilà comment on fait un système de course dans un circuit réel.
Mais cela dit, dans Mario Kart, il y a quand même des endroits où c'est pas illégal de prendre des raccourcis.
Tout à fait.
Tu peux les prendre. Comment est-ce qu'à ce moment-là, tu considères que la personne est quand même plus loin sur la piste si elle a récolté moins de petits points?
Je suppose que tu définis, heureusement, il ne faut pas être placé précisément sur le point, mais tu peux calculer par contre la distance de ton kart avec un point. Et tu peux dire par exemple, si ta distance est de 50 mètres, tu valides le point. Je suppose que tu peux augmenter plus ou moins la distance de validation de ton point pour permettre le passage de raccourci.
Ok. Ah, c'est...
En fait, ouais, tu peux déterminer la zone légale de jeu, entre guillemets, ou ce qui serait une triche. C'est hyper intéressant. Et toi, comment... Enfin, là, typiquement, ce genre de problème, est-ce que c'est le genre de truc que tu résous un peu toi de ton côté, comme ça, en y réfléchissant? Est-ce que parfois, tu as de l'aide quand même Parce que mine de rien, il y a des grands problèmes dans le jeu vidéo qui sont un peu standard. Est-ce que t'as trouvé de l'aide, t'as des communautés, des endroits où t'as pu apprendre, en sachant que tu ne viens pas de là, toi?
Il y a des communautés, c'est sûr. Malheureusement, je suis pas dedans. c'est pas forcément un souhait personnel. Enfin, j'ai jamais essayé. Moi, je prends tellement de plaisir en fait à essayer de mon côté et la particularité de coder un jeu vidéo avec Tree.js comparé à coder avec un jeu vidéo avec Unity par exemple ou Unreal Engine, c'est que tout est fait artisanalement. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire que il y a pas d'aide, il y a pas d'éditeur visuel. Non, c'est tu as tes lignes de code, tu as ton éditeur de code et tu as ton navigateur. Tu ne peux te débrouiller que à partir de là. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que tout est fait artisanalement, quoi.
T'apprends à faire tout, quoi.
Ouais, c'est ça. T'apprends à faire tout. Et du coup, ouais, ça, j'ai dû le réfléchir moi-même. L'ironie veut que j'ai fait une petite animation qui me permet de... En fait, je voulais un rendu un peu arcade pour l'intro du jeu, que vous avez vu, qui a été montré plusieurs fois d'ailleurs, où c'est juste une caméra qui passe à travers le tracé du circuit. Et pour faire ça, il m'a fallu définir plusieurs points que la caméra va joindre. Et ensuite, je me suis dit... Mais attends,
j'ai déjà fait ça.
Les calculs de la position, tu peux les faire à partir de ces points-là. Et c'est comme ça que j'ai fait les calculs de position des circuits.
En fait, tu t'es rendu compte que les briques que tu avais à ta disposition s'additionnent en fait.
Absolument.
Pas de zéro à chaque fois.
Absolument.
Très, très intéressant. Je vous propose, parce que je sais que vous attendez ça avec impatience, qu'on fasse
de
le
jouer.
Test. Qu'on fasse le test en direct. On a setup, une démonstration, un affrontement.
Affrontement.
Exactement, un affrontement entre notre guest à qui on a fourni une manette de Xbox.
Très cool.
Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée.
Ah, ok, crois, okay. Tu choisis ton contrôleur.
Donc là, tu peux choisir ton contrôleur.
Ça fait.
C'est-à-dire que tu peux avoir un mobile connecté.
Le site peut s'ouvrir depuis un mobile
et ça fonctionne.
Et ça fonctionne.
Et c'est pas... Ah, t'as même le... Oh, c'est si satisfaisant.
Ça fonctionne.
Oh yeah.
C'est si... Ah ouais, j'avoue les petits... Ok, c'est marrant, je vois tout ce que tu t'as expliqué du coup.
Ouais.
On voit les 5 particules différentes.
Ouais.
Effectivement, il y a vraiment un feeling Mario Kart.
Oh là là. Il y a des petits lags.
Non.
Tu vas mettre un objet. Oh là là. Il y a des petits lags. Les aléas du direct.
Les aléas du direct.
J'ai des gouttes de sueur en live, mais...
Non mais franchement c'est quand même magnifique.
C'est ultra cool.
C'est tellement satisfaisant.
Tu vois les flammes, les...
Est-ce que t'as les petits personnages qui bougent du coup?
Les traces d'opto... Non, je l'ai pas fait. Je vais le faire, mais je l'ai pas fait. Oh, oh regardez oh. Notre deuxième joueur nous a rejoint en direct. Ah, il est là. Ah, il m'a mis un objet.
Il t'a envoyé une banane là.
Il m'a envoyé une banane.
Non mais franchement l'animation de la banane c'est tellement la même que la vraie.
Ouais.
T'as vu la petite rotate là.
Ouais. C'est très très cool.
Dans ce genre de cas, pour copier une animation comme ça, comment tu fais? Tu fais à l'œil? Genre t'as un maillot d'un côté et... oh. C'est ça?
Bah en fait, quand je voulais faire ça, bah j'ai passé ma nuit à jouer à Mario Kart et j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui se passe exactement? Quelle particule s'affiche?
C'est du vrai.
C'est pour le travail, c'est pour le travail.
Ouais, c'est du vrai. Ah bah là, vous voyez, j'ai shooté avec une carapace.
Magnifique.
C'est tellement la même. Honnêtement, le chat est choqué. Le chat est dans les mois.
Je suis assez content parce que en vrai, c'est plutôt fluide, ça marche plutôt bien.
Non, franchement, ouais, c'est beau. Non, mais surtout là, t'as un multijoueur. Bon, alors, ouais. pour expliquer, c'est un multijoueur local actuellement, comme sur une console. Comme sur une ancienne console.
Non,
ah bon ?
Non. Ouais. C'est là toute la particularité.
Ah bon ?
C'est que c'est pas un multijoueur local. C'est-à-dire que là, on peut le mettre sur un site web. Et moi, je peux jouer en ligne depuis chez moi.
Mais
et
non.
Tu peux jouer en ligne depuis chez toi. Et ça marche, et on est interconnectés tous les deux.
Là,
est-ce qu'on peut rejoindre le jeu depuis nos téléphones?
Alors malheureusement non, parce que le truc était uploadé sur Vercel, et Vercel là actuellement c'est payment required.
Ah oui.
C'est-à-dire que en fait,
t'as plus de crédit là.
En 24 heures, le jeu a été ouvert 50 000 fois.
Ah ouais.
Donc là, la bande passante de Vercel, ils m'ont appelé, ils m'ont fait, frérot, qu'est-ce que tu fais?
Il faut payer maintenant. Attends, parce que donc ça veut dire que tu t'es tapé tout le code multi. Parce que pour expliquer, t'as quand même le ce qu'on appelle le netcode, qui est l'enfer bien connu de tous les jeux multijoueurs.
Tout à fait.
C'est pas simple. Enfin, en complexité, c'est l'équivalent de refaire ton jeu.
Et c'est là où je suis obligé de donner du crédit à une entreprise qui vient de San Francisco, qui sont incroyables. Et je connais du coup les devs personnellement derrière ça. Donc c'est absolument fantastique. Et c'est là l'avantage des réseaux, de se développer sur les réseaux et d'afficher le développement de son jeu sur les réseaux, c'est que bah, du coup, on se fait approcher par des solutions qu'on ne peut pas estimer. C'est une solution qui s'appelle Playroom. Peut-être qu'ils vont afficher à l'écran Playroom. Et Playroom procure un back-end fonctionnel et optimisé pour le jeu vidéo.
Donc, ils font tout ce qui est relou pour toi, à savoir...
Exactement.
Qui a envoyé quelle action à qui?
Exactement.
Okay.
Et pour les développeurs qui codent avec React, moi je suis un gros fan de React. La magie du Playroom, c'est que tu sets un state sur un client qui est un multiplayer state. Ton state, il est set sur tous les autres clients.
D'accord. Okay. Donc en fait, c'est comme si on te disait et toute la notion même. La notion que ces gens sont à des kilomètres de distance, on l'abstrait. Tu n'as plus à t'en préoccuper. Pour toi, ils sont tous sur la même machine, en gros.
C'est ça.
Et c'est nous qui nous chargeons de synchroniser tous ces états, toutes ces variables entre elles.
Absolument. C'est un truc que provient Playroom et ils m'ont approché du coup pour me proposer leur solution. Et ils m'ont dit, bah voilà, essaye, regarde comment ça se passe. Nous, on a notre équipe qui peut te soutenir et te supporter si tu as besoin de la moindre en question. Et en fait, leur doc est tellement clair... pas eu de questions à poser, juste t'es en mode oh putain, ça marche.
Moi, je trouve ça, très inspirant parce que ça veut dire que, bon, évidemment, n'importe qui peut ne peut pas faire ça. Objectivement.
De base.
Tu as quand même des compétences particulières qui te permettent de faire ça. Mais là où, où je trouve qu'il y a un côté rassurant, c'est qu'on a quasiment l'impression que, avec les services dont tu as parlé, etc., que bah, à peu près n'importe qui, en étant motivé et en y passant peut-être assez longtemps, beaucoup, beaucoup de temps,
beaucoup de temps,
pourrait faire sa propre version, peut-être moins bien, mais on a le sentiment que ça a porté des gens motivés, quoi.
Ouais, absolument. Moi, la 3D, du coup, la 3D dans le web, c'est un sujet que je ponce depuis quasiment 2 ans maintenant. Forcément, j'ai ce bagage-là derrière pour rapprocher le jeu Mario Kart et c'est ce qui me permet d'avoir tous les concepts. Aujourd'hui, c'est un sujet quand même rendu plus accessible. Avant, c'était pas ça du tout. Et c'est pour ça que je m'en suis pas approché d'ailleurs. Il y a Bruno Simon, d'ailleurs, qui est un développeur qui est très populaire, qui a créé un portfolio. Et dans le monde du web, il y a eu un avant et après son portfolio, tellement son truc a cassé Internet. Peut-être qu'ils vont afficher Bruno Simon à l'écran. Il a fait un portfolio avec une petite voiture. Ça, normalement, ça parle à tout le monde. Et en gros, on peut explorer son monde. Voilà.
Oui, mais je l'ai vu, le truc.
Exactement.
Oh, c'est si satisfaisant, en plus, le sound design.
Et oula, ça rame. Et oh mince, ça rame. Et du coup, voilà, il a créé une formation qui s'appelle 3JS Journey. Il vit de ça aujourd'hui d'ailleurs et il ne bosse plus que là-dessus. J'ai eu un call avec lui hier, on a pu se rencontrer et discuter en personne.
Trop bien.
Et du coup voilà, il rend accessible la 3D dans le web, mais ça demande des efforts qui sont énormes et un travail qui est conséquent puisque admettons tu veux te lancer dans le web, tu vas apprendre HTML, CSS, JavaScript, les événements network, les fetch, les appels asynchrones, les promesses, machin, etc. Enfin, t'as tout un truc. Ensuite, les frameworks web, machin. C'est x3, voire x4 le travail qu'il te faut pour apprendre la 3D dans le web, tellement il y a des sujets qui sont ultra complexes à aborder.
Et tout le taf là de développement sur Mario Kart, tu l'estimerais combien d'heures?
Oh, beaucoup. Parce qu'en plus, non seulement j'avais pas de travail du coup, du fait que mon patron était absent, je me levais des fois à 6h du matin et j'éteignais mon PC, il était 23h, tu vois.
Okay,
je comptais pas mes heures. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'essais aussi.
Du coup, sur combien de semaines peut-être?
Ou un jour,
Deux mois avant que je chope une mission en freelance qui me permette un peu de me sortir de là. Chez Shadow notamment avec Génie Mobile et
pendant 2 mois tu veux dire t'as codé non-stop pratiquement sur ce projet là
mais c'est un bon aperçu
et que
en fait on pourrait dire que c'est pas tant que ça quand tu vois le résultat, c'est ça qu'en fait
c'est rapide en fait.
En vrai, c'est fou, mais on rappelle que d'habitude ce genre de jeu nécessite des équipes entières et beaucoup de développement.
Ça prend un temps,
il manque encore énormément de choses. Et justement, toi, qu'est-ce que tu envie de développer? Parce que là, moi, j'ai envie de te dire, je veux la version où il y a le vrai décompte, où il y a des vraies courses, où on a plus de track. Enfin, ça fait un peu... Ça fait rêver tous les gens qui ont déjà essayé de faire de l'émulation de Wii, etc. À un point que vous pouvez pas imaginer.
Moi, j'ai adoré l'émulation de Wii, on va pas se mentir. L'émulation de Wii, enfin... Tu vois, ils ont shut down récemment la Wii U et la 3DS. La Wii U, j'ai pas eu la chance de la voir. J'étais trop content de pouvoir y jouer sur émulateur, hein, on va pas se mentir. Par des moyens légaux, évidemment, je tiens à le préciser. Je n'ai pas téléchargé les jeux illégalement, évidemment que non. C'est beaucoup de travail.
La question, c'était qu'est-ce que tu envisages de faire pour ton jeu? Est-ce que tu veux vraiment le pousser encore plus loin?
Là, actuellement, j'ai plus tellement de temps de me mettre là-dessus, mais je vais le finir. Ce projet sera terminé. Ce ne sera pas terminé maintenant, ce ne sera pas terminé dans 1 mois, peut-être dans 2, 3, 4, 5 mois, j'en sais rien. Essayons d'être optimistes, peut-être 5 mois. Mais déjà, l'optimisation de performance, il faut que je sois capable de run ce projet partout. Il faut vraiment que je fasse un gros boulot là-dessus. Donc là, pour l'instant, c'est le gros chantier sur lequel je passe en ce moment. Et c'est pas le genre de truc que je peux build in public, parce qu'il n'y a pas de avant-après.
Oui, c'est pas fun, c'est juste ça marche mieux.
C'est beaucoup de réécriture, beaucoup de tu remontes dans ton code, ça fait que 2 mois que tu l'as écrit, hein, et tu remontes dans ton code et t'es en mode...
Je comprends pas.
Oh, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais tu es idiot. Et du coup, il y a ça. Il y a le fait d'avoir mes propres assets. L'idée, c'est pas de garder l'identité Mario Kart. Mario Kart, c'est vraiment la façade qui permet aussi de montrer le projet, parce que Mario Kart, c'est quand même un nom qui parle à tout le monde. L'idée, c'est Pup Cup, comme je vous le disais. J'avais envoyé une image potentiellement à votre équipe pour que vous puissiez montrer le potentiel avec une... En gros, j'ai demandé à ChatGPT, tiens, ça c'est une photo de mon Carlin, imagine-le dans un kart et montre-nous le résultat. Et le résultat est tellement mignon, j'espère qu'ils vont le montrer. Et du coup, voilà, l'idée, voilà. Voilà, exactement. Il est trop. En vrai, je le trouve trop chaud et je reconnais tellement mon chien là-dessus, ça m'éclate. Et donc, voilà, avoir ses propres assets, avoir sa propre image. Il y a des tas d'effets de particules que je veux rajouter, des tas d'effets de shader que je veux rajouter. Le post-processing, il faut que je l'améliore à balle parce que ça consomme à mort en termes de performance graphique. Et voilà pour la suite.
Sur les pistes, est-ce que tu as ambition d'en rajouter, entre guillemets, de rajouter des...
Ouais, ouais, c'est vrai.
Et tous les personnages aussi.
Absolument, il y a tout un travail d'UI, de cartes différentes. Je veux que ce soit une compétition comme Mario Kart. Il y a des objets, je veux rajouter des bombes. Là, actuellement, on a les carapaces, les champignons et les bananes. Je veux rajouter des bombes, je veux rajouter des carapaces bleues, je veux rajouter des carapaces rouges. Que je vais pouvoir, du coup, les carapaces rouges, je vais pouvoir fonctionner avec le système de points que je vous ai parlé plus tôt.
C'est vrai.
Il y a plein de trucs que je veux rajouter. Il y a plein de projets. J'ai une to-do list qui est comme ça de trucs que je veux rajouter.
Et est-ce que tu acceptes les contributions
Tout à fait. Il y a eu un gros moment où le projet a fait un gros boom dans sa popularité. C'est évidemment quand je l'ai annoncé en open source, parce que le projet est open source, c'est accessible gratuitement partout. Il y a 3800 étoiles sur le projet open source. Il y a eu des contributions déjà. Bon, des trucs pour des typos, des trucs pour modifier la to-do list. Il y a eu une modification un peu mécanique où un mec a rajouté la fonction de reculer sur le player controller. Ce qui est bien, ce qui est très bien. Je ne l'avais pas faite. C'est vrai que j'estimais que ça ne me servirait pas. Il l'a faite, donc trop cool. Il y a eu un effet de fumée aussi, mais pas au petit du tout, donc j'ai été obligé de le dégager. Oui. Mais il a tenté.
Dans l'open source, tu as aussi le poids de devoir gérer Vio. La communauté, et donc c'est pas forcément simple.
Absolument.
Donc, franchement, bravo à toi de l'avoir mis en open source, c'est magnifique.
Merci beaucoup.
Juste avant qu'on...
Il y avait une demande. Hein. L'open source, il y avait une demande très forte là-dessus.
Non, mais c'est cool. C'est vrai qu'en fait, ça donne envie de voir un peu les entrailles du système. Et justement, toi qui a une vision assez précise de c'est quoi ce qui est possible en termes de 3D actuellement dans le navigateur. Et il y a 10 ans, ça aurait paru un peu improbable d'avoir ce genre de techno dans un navigateur. On aurait dit non, mais c'est pas du tout fait pour ça. On voulait juste afficher des résultats à Google à la base. Enfin, donc ça nous aurait paru fou. Est-ce que de la même manière, moi j'ai suivi un peu de loin qu'il y avait des grosses innovations qui étaient en cours de déploiement sur le navigateur, notamment un truc qui s'appelle WebGPU et qui excite, j'ai l'impression, beaucoup de gens. C'est quoi toi ton avis là-dessus? Est-ce que tu penses que demain le navigateur pourrait être encore plus qu'aujourd'hui une place pour avoir des applications gourmandes en ressources? Alors, il y a le jeu vidéo, évidemment, mais peut-être des logiciels de montage, des trucs qui seraient vraiment assez lourds en termes de compute, assez lourds en termes de calcul, et qui aujourd'hui nécessitent d'installer des applis, enfin des process un peu lourds. Vers quoi tu penses qu'on pourrait se diriger?
Eh ben, déjà, je peux te répondre sur les logiciels de montage, en tout cas. Ça existe déjà. Ça s'appelle Remotion, qui est un éditeur de vidéos avec React, qui vous permet d'éditer des vidéos en live sur Internet. Et WebGPU, c'est un sujet qui est super intéressant. Mais avant de vous parler de WebGPU, je suis obligé de vous parler du problème posé. Ben voilà. Je suis obligé de vous parler du problème qui est causé à WebGPU. C'est ça. C'est l'iPhone. Apple casse les bonbons. Apple casse les bonbons, j'explique.
Je pense que dans l'ordre, il faut qu'on comprenne un peu du coup c'est quoi WebGPU.
Très juste. WebGL, je vous en ai parlé tout à l'heure. WebGL, c'est le moteur de rendu qui nous permet d'afficher des sites web en 3D. Il nous permet de dessiner dans un canvas et de dessiner n'importe quoi. À partir de là, a été créé Tri.js qui nous permet d'avoir une API JavaScript qui nous permet de commander à WebGL. Sans avoir l'interface syntaxique de WebGL, qui, je le rappelle, est infernale. Je ne sais plus où je vais en venir. WebGL a évolué. On a eu WebGL 1. Aujourd'hui, on a WebGL 2. Tri.js a d'ailleurs enfin migré vers WebGL 2, ce qui permet des applications plus optimisées, plus jolies et plus forte. Il y a un autre système de rendu qui s'appelle WebGI, mais qui est basé sur WebGL. Et voilà. Et WebGPU, du coup, c'est un moteur de rendu qui fonctionne sur la carte graphique. Et là où c'est super intéressant, c'est que du coup, c'est super optimisé. On se rapproche des performances d'un Vulkan, qui est le moteur graphique des applications Unity ou Unreal Engine, qui utilisent Vulkan ou qui utilisent DirectX ou qui utilisent plein de choses, qui sont plein de moteurs graphiques à part, mais qui sont des moteurs graphiques applicatifs.
Où ça nécessite d'installer un jeu via Steam, etc. Là, ce que tu expliques, c'est que c'est un peu l'équivalent de ça, mais dans le navigateur.
Exactement. Et en fait, le gros avantage de développer les jeux vidéo sur le navigateur, c'est que n'importe qui peut y jouer sans installation. Il n'y a pas besoin de store, il n'y a pas besoin d'installation, il n'y a pas besoin de package C++ ou quoi. C'est juste, tu ouvres une page web et tu peux jouer aux jeux vidéo. Et c'est là où c'est brillant, et c'est là où il y a une partie du marché qui est super intéressante là-dedans. Et le problème, c'est Apple, parce que Apple ne supporte pas WebGPU. Et actuellement, il y a des tas de technologies qui veulent migrer sur WebGPU, mais ils ne peuvent pas, enfin, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, c'est qu'ils ne veulent pas investir parce qu'ils disent... Ouais, mais se bloquer la part de marché Apple qui n'est pas supportée ni sur Safari ni sur iOS, qui est le système d'exploitation de Apple, c'est chiant. On n'a pas envie de faire ça. Moi, j'ai eu des insights, du coup, encore une fois, les réseaux incroyables, de l'équipe qui bosse actuellement sur Tri.js. Et ils sont en train de faire comme React Native, de créer leur propre langage qui va permettre de compiler un jeu en Tri.js et dans une version WebGL. Et dans une version WebGPU. Un peu comme React Native qui permet de compiler du JavaScript et dans une version Android et dans une version iPhone. Tri.js sont en train de bosser là-dessus. C'est un boulot de fou malade.
Merci Apple pour cette abstraction supplémentaire.
C'est clair.
Voilà. C'est-à-dire qu'Apple, ils se font ping tous les jours là-dessus. Il y a des tas de devs qui les appellent. Il y a des tas de devs qui les appellent là-dessus en mode supportez WebGPU puisqu'on vous attend.
Allez-y. Surtout que de ce que moi j'ai compris, en fait, à la différence des API graphiques que tu as mentionné, Vulkan, DirectX, etc., qui ont un peu leur gouvernance différente. Le web, c'est quand même super particulier. Et en général, c'est des consortiums qui se mettent d'accord sur des standards. Et moi, de ce que j'avais compris, Apple a plutôt pas mal influencé la direction WebGPU, qui ressemble pas mal à du métal, il me semble, actuellement. Ce qui m'étonne, justement, c'est qu'ils soient, du coup, les derniers à se mettre en selle.
C'est ma théorie, c'est que Apple ne sorte jamais rien tant que c'est pas quali. C'est pour ça que, tu vois, l'intelligence artificielle, on peut tous penser qu'ils ont du retard dans le sujet. Moi, je suis convaincu qu'à la WWDC qui va sortir en juin 2024, ils vont éclater absolument tout le monde. Parce qu'ils attendent, et en général, ils attendent ce genre de moment pour éclater le game. Et je suis convaincu qu'ils sont en train de préparer un moteur de rendu Vulkan, un moteur de rendu métal, excusez-moi, pour navigateur sur Safari. Et c'est pour ça que pour l'instant, ils ne font pas la promotion de WebGPU. Ils vont justifier que non, mais c'est pour des normes de sécurité, c'est la standard de Apple, on la connaît. Et voilà. Mais il y a un site qu'il faudrait que je vous retrouve et que je mettrai potentiellement en commentaire sur la vidéo YouTube. C'est un mec qui a fait ça dans une application Tri.js, justement. Il y a plus de 66 features qui ont été supportées par Apple et qui ne le sont plus.
Ah oui.
Et du coup, aux mises à jour de iOS, ça saute et il y a plein de trucs qui sautent comme ça. C'est super chiant pour tout le monde.
Bon, c'est une info chat, donc en vrai, il faudra vérifier. Mais il serait possible que dans Safari, Technology Preview, fin 2023, il y ait WebGPU qui soit disponible. Mais ce qui veut dire que ça n'est pas du tout dans les versions en production. Mais ça laisserait présager qu'enfin, on se dirige vers un monde où il y a cette technologie merveilleuse partout.
Tout à fait. Et ils sont en train de bosser. Et du coup, enfin, l'équipe Tri.js sont en train de bosser à ce qu'on ait des jeux AAA dans notre navigateur web.
Ok. Et ça, ce serait assez marrant quand même.
ce serait quand même assez fou.
Ce serait assez marrant. C'était hyper intéressant. Merci à toi de nous avoir partagé tout ça. Quel beau projet. Si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à te suivre sur Twitter. On va essayer de partager ça dans le chat sans attendre. Vous avez en tout cas le lien qui est épinglé actuellement pour tester le jeu, le multiplayer, comme tu l'expliquais, est peut-être potentiellement plus disponible pour des raisons de thunes, tout simplement. Donc réessayez peut-être une autre fois. Mais en tout cas, merci en tout cas de nous avoir partagé cette expérience. C'est très inspirant.
Cool. Ouais.
Et ça nous donne envie de tester toutes ces technos dont tu nous as parlé. Et puis sur ce, nous, on vous dit à très bientôt pour de prochaines émissions. Vous pouvez suivre Tiffany Egg sur son Twitter.
Ouais.
Qu'est-ce que tu as de prévu, toi, bientôt des... Tu te reposes, tu as des...
Ah non, ouais, c'est un peu... c'est la saison des semites. À AWS, du coup, je vais pas mal voyager et puis.
T'en as des prévus, des
ouais,
events.
J'ai la semaine prochaine, je vais à celui de Londres, celui de la semaine d'après. Okay. Et puis on fait des gros live Twitch aussi sur AWS, ouais. Sur l'intelligence artificielle comme d'hab, Generative AI, et j'en ai un gros à Seattle.
Cool.
Ce sera à la fin du mois et on va expliquer plein de trucs sur toutes nos technos en IA, donc c'est top. Ouais.
Et ben, on te retrouve sur le Twitch d'AWS. Et vous n'hésitez pas à follower également notre chaîne Twitch. On revient dans 2 semaines, mercredi à 19h. Et d'ici là, très bonne soirée à tous. Bye bye.
Au revoir.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.